Avec David Abiker.
Bonjour David.
Bonjour mon cher Renaud, bonjour à tous.
À la une, ceux qui font l'histoire et celui qui l'enseignait.
Ceux qui font l'histoire, il s'agit des géants chinois et russes. À l'occasion du 20e congrès du Parti communiste qui débute dimanche à Pékin, le numéro 1 chinois Xi Jinping est partout dans les journaux et les magazines. L'opinion décrypte sa vraie stratégie. Courrier international pointe l'emprise de Xi Jinping sur ce congrès et décrit la lente évolution des équilibres politiques du PC chinois avec l'arrivée d'une génération plus jeune, mais toujours docile. L'Express parle de grands bonds en arrière pour le pays et les Échos présentent le leader chinois comme l'empereur d'une Chine qui s'essouffle. On lira dans les Échos l'édito de Lucie Roquebin. Elle décrit un numéro 1 chinois obsédé par l'intérêt du parti et le contrôle de sa population et dont le talon d'Achille n'est pas politique mais économique. Le pays connaîtra cette année sa plus faible croissance depuis 40 ans. Après Vladimir Poutine qui affiche déjà 23 ans de règne, le président chinois apporte un nouveau bémol à ceux qui pensent pouvoir faire rimer prospérité économique et autocratie. Ça ne fonctionne pas.
À l'ombre du géant chinois, Poutine toujours à la une.
Match lui fait cadeau, il faut dire ça comme ça, d'une couverture entre comparaison et admiration, titrant « Poutine le terrible », référence au premier tsar, Ivan, titre assorti d'une photo qui le montre au Kremlin, passant fièrement une porte immense et dorée devant un soldat au garde-à-vous, un dossier à la main, marchant d'un pas décidé. L'Obs, lui, s'inspire du groupe Téléphone et choisit Poutine, la bombe humaine. Il y a donc, en une de vos journaux, ceux qui font l'histoire, et ce matin également, il y a celui qui l'enseignait, Samuel Paty.
Oui, Samuel Paty, assassiné il y a 2 ans et auquel un hommage sera rendu dans les établissements scolaires, aujourd'hui et lundi.
L'indifférence a gagné, se désole l'hebdomadaire Marianne, qui estime sous la plume de Natacha Polony que certes le nom de Paty a marqué les mémoires, mais son combat pour la liberté d'expression a été enterré. L'emprise des bigots n'a jamais été si prégnante. 2 ans après, l'école toujours sous la menace islamiste, titre Le Figaro, qui se demande avec Yves Tréhard à quoi a servi la mort de Samuel Paty. À rien, dit-il. Mais il va plus loin, l'éditorialiste du Figaro. Il évoque la honte et à cette phrase terrible. À l'heure où de jeunes iraniennes, elles font la une du point, ces jeunes iraniennes, à l'heure où de jeunes iraniennes se font trouer la peau pour mettre à bas leur voile et recouvrer la liberté, le pays de la laïcité tremble encore devant les ennemis de la République.
Le Figaro cite cette lettre anonyme visant il y a quelques jours un enseignant d'histoire-géographie d'un établissement de l'Essonne.
Votre prof, le sale juif, doit arrêter de faire le malin. On va lui faire une Samuel Paty. Et puis il y a l'enquête du Parisien sur les premiers ratés de l'hommage au professeur d'histoire décapité il y a 2 ans. Une enquête qui a conduit le Parisien à interroger des jeunes gens sur le sujet Paty. Écoutez bien la réponse d'Anton, en CAP, scolarisé à 15 km seulement du lycée où l'enseignant fut assassiné il y a 2 ans. Samuel Paty, c'est un joueur de foot, non? Il est au PSG, c'est ça? Désolé, je suis pas trop le foot. Comment enseigner l'histoire de la liberté d'expression, de la caricature politique ou encore de la laïcité à des mômes qui ne se rappellent déjà plus qui est Samuel Paty? Et puis dans Le Monde, le ministre de l'Éducation nationale donne un chiffre. 313 atteintes à la laïcité scolaire ont eu lieu en septembre. Pape Ndiaye l'admet. Il y a eu une vague de tenues pouvant être considérées comme religieuses. Mieux vaut tard que jamais. Alors question, les Français se moquent-ils de cette histoire immédiate et tragique? Mera, Charlie Hebdo, le Bataclan, Nice, le Père Hamel ont-ils oublié?
Alors, pas sûr à voir hein, les records, quand si on voit les records d'entrée du film Novembre avec notamment Jean Dujardin et Sandrine Kiberlin.
Pourquoi Novembre cartonne, se demande le Parisien. 600 000 entrées en une semaine. Aucun film français n'a effectué un tel démarrage en termes de fréquentation depuis Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Vous noterez que le point de départ de ces deux films, c'est la religion. La religion quand elle éloigne ou quand elle rapproche. Novembre est le film qui raconte les 5 jours d'enquête entre les attentats du 13 novembre et l'assaut donné 5 jours plus tard sur un immeuble de Saint-Denis dans le 93. Qui va voir Novembre? Un public un peu plus parisien que la moyenne, 28% environ des spectateurs, 37% des spectateurs ont moins de 25 ans, 86% de satisfaits toute classe d'âge et 95% de satisfaits chez les moins de 25 ans. On va voir Novembre pour comprendre, pour l'action, pour Dujardin Kiberlin, parce que le réalisateur a fait Bac Nord avec Gilles Lelouch, très réussi lui aussi. Et peut-être aussi, les jeunes vont-ils voir Novembre parce que justement, ils estiment que c'est leur histoire, on peut toujours rêver.
Allez, on termine avec des des bonnes et des belles choses, car c'est le week-end.
Je vous recommande 4 suppléments pour vous nourrir intellectuellement et culturellement. Le supplément du 1 consacré à Zola, une conscience. Zola, c'est l'époque où la gauche savait où elle habitait. Le hors-série de Télérama sur les natures mortes qui se demandent pourquoi nous, Français, avons choisi ce terme horrible pour parler de jolie peinture, qui raconte plutôt, et le terme est joli, une vie silencieuse. Le supplément de l'histoire sur la cuisine et la table, et enfin le supplément de l'opinion, O2, sur le luxe, dédié aux journées particulières d'LVMH, maison mère de Radio Classique. Eh bien, ces maisons du groupe LVMH ouvrent leurs portes jusqu'à dimanche, et ce, dans le monde entier, pour montrer des ateliers, des salons de couture, des caves, des chais, des hôtels particuliers, et faire connaître ce qu'Antoine Arnaud, qui s'en fait l'ambassadeur à la une de haut, ce qu'il appelle les métiers d'excellence. C'est notre travail et notre responsabilité de valoriser ces métiers, dit-il. Eh bien, on va le faire. Ce soir, à Radio Classique, j'ai décidé d'être l'employé du mois.
Ouais, David, vous consacrez une émission musicale aux métiers d'excellence.
18h ce soir, nous allons essayer de mettre en musique ces journées particulières et ces métiers en leur offrant une sorte de bande originale. Je vous donne un exemple. Un parfumeur, une dame de table. La dame de table, ce sont ces dames qui embellissent les flacons et qui les conditionnent avec beaucoup de soin. Ça donnerait quoi en musique? Eh bien, ça donnerait ça.
Le duo des fleurs, Lacmé, Léo Delibre, et vous retrouverez David à 18h dans Demandez le programme. Très bon week-end. D'ailleurs, vous serez aux Échos, il me semble, hein, pour expliquer un petit peu, pour animer quelques ateliers radio avec Christian Morin, avec Augustin, avec
d'autres journalistes, François Geffrier. Oui, parce que les métiers d'excellence, c'est aussi ceux de la presse.
Voilà.
C'est les Échos, le Parisien, ouvre lui aussi son siège pour présenter les métiers de la presse, donc il participe aux journées particulières.
Voilà, on essaie le plus possible d'être excellent. On n'y arrive pas toujours, mais en tout cas, je vous mets une très bonne note aujourd'hui pour votre revue de presse, pour mon cher David, et je vous souhaite un excellent week-end. Il est 8h39 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, Esprit Libre avec Cécile Cornudet et Jean-Marie.